Soigner la terre, étape d'une transition agricole, une émission proposée par Clémentine Saint-Aulcolandres, d'après les interviews de Paul et Lionel Sarieis, exploitants agricoles installés à Romette, Aveyron. Première partie, le fils. Lionel Sarieis, vous avez 36 ans, vous produisez aujourd'hui du lait bio. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre installation en tant qu'agriculteur ?
Je me suis installé à 21 ans, donc en 1999. Je me suis converti en bio en 2010. Il a fallu 2 ans de conversion. Donc j'ai été officialisé bio, enfin producteur bio en 2012. J'ai le BEP agricole, le bac agricole et le CAP agricole.
Qu'est-ce qui vous a manqué en fait ?
Ce qui m'a manqué, c'est qu'on ne parle pas de l'aspect vivant de ce métier. J'ai été choqué, oui, au niveau du coefficient élevé qu'il y avait, notamment en chimie, physique-chimie. Dans ma formation, on avait un coefficient 5, ce qui est quand même assez étonnant pour un milieu où le vivant prédomine, quoi. Nous apprenait davantage à aligner des molécules et des atomes qu'à découvrir la fonction des vers de terre ou des microbes dans le sol.
Et un jour, vous avez décidé de vous convertir à l'agriculture biologique. Pourquoi ?
J'étais en train de répandre de la chaux et je me suis aperçu qu'il y avait la faune du sol qui était en train de mourir. Donc je me suis dit, c'est pas normal. Les agriculteurs sont habitués à passer des amendements, des engrais, des désherbages, des fongicides depuis des décennies. Leurs parents faisaient ça, ils ont continué à faire ça et ne se sont pas questionnés de façon objective de l'utilité de ces actes. J'ai commencé à réduire les pratiques, à réduire les apports. Les quantités de chaux, d'engrais, et de désherbage ou de fongicides au niveau de mes cultures, j'ai vu que je conservais plus de vie au niveau du sol, que les plantes n'étaient pas plus malades qu'avant. Donc je me suis de plus en plus dirigé vers le système autonome biologique.
D'accord, mais pour repartir sur un nouveau système, j'imagine qu'il faut faire un bilan à un moment.
Tout à fait, donc j'ai fait intervenir une personne très qualifiée au niveau international et qui s'appelle donc Claude Bourguignon, qui est intervenu en 2011. Et on a fait une étude physique, chimique et biologique de mon sol. On est resté 2 heures sur un profil, c'est-à-dire un trou. Et là, on a fait des prélèvements de terre tous les 15 cm, de façon à faire un état des lieux. Le bilan, c'est que les sols sont décarbonés et que le carbone est l'aliment essentiel pour un sol.
Pourquoi ce manque de carbone, d'après leur bilan ?
Alors, ce manque de carbone, parce que il y a volatilisation de la matière organique.
D'accord, et alors la matière organique, c'est quoi ?
La matière organique, c'est la matière vivante, c'est l'humus, c'est des champignons qui sont au ras du sol, qui certes sont microscopiques, mais c'est toute cette vie qui est à la surface du sol qu'on appelle la litière.
D'accord.
Et cette surface de sol ne doit aller en aucun cas sous le sol, c'est-à-dire ne doit pas la retourner, et c'est pour ça que la charrue a été le premier outil de destruction des sols.
Pourquoi ?
La charrue retourne la terre qui est sur le sol, donc qui est à la surface, la met en profondeur et la matière organique ne peut plus être libérée pour la plante. Donc vous avez une partie de la faune qui vivait à la surface du sol qui meurt et qui ne peut pas rendre cette matière vivante, cette matière organique pour les plantes. Aujourd'hui, on a perdu 90% de notre faune, que ce soit au niveau national ou même au niveau de mes terres, on était à 75% de faune manquante, donc c'est énorme.
Manquante par rapport à quelle période, quel chiffre ?
Par rapport à des prairies permanentes qui n'ont jamais vu de traitement ou qui n'ont jamais été labourées. Aujourd'hui, on a à peu près 500 kg de vers à l'hectare alors qu'on pourrait avoir 4 tonnes.
4 tonnes de vers de terre.
Voilà, vers de terre à l'hectare, alors qu'on est en manque de faune dans les sols, d'où leur dégradation.
S'il n'y a plus de vers de terre, par exemple, dans les sols, qu'est-ce qui se passe ?
Vous n'avez plus de mélange de sol et vous n'avez plus de remontée des éléments qui sont descendus par la pluie. Donc le vers de terre vous remonte en permanence ce que la pluie vous descend. Ça fonctionne en forme de cycle. Donc le ver de terre se nourrit des herbes mortes qu'il y a au ras du sol, d'où l'intérêt de les laisser au ras du sol, que ce soit le fumier ou tout ça, il ne faut jamais l'enterrer, il faut le laisser sur le sol. Le ver de terre se nourrit et ensuite il descend dans sa galerie et il va aller consommer de l'argile qui est le résultat de l'attaque des racines sur la roche. Il va mélanger argile et humus de surface de façon à créer le sol. C'est les vers de terre qui créent le sol. Les tumulus, qui sont les excréments des vers de terre, contiennent toutes les substances nutritives dont la plante a besoin. Et elles sont toujours à la surface du sol. Donc la pluie ne peut que les faire descendre au niveau des racines. Donc le garde-manger se retrouve à la surface du sol. Plus vous aurez des vers de terre, plus vous aurez un sol qui ne se lessivera pas. Moins il y aura de vie dans le sol et plus vous perdrez des éléments. Aujourd'hui, on perd 40% d'azote par hectare et par an. Tout simplement parce qu'il n'y a plus de faune dans le sol.
Donc la terre elle-même
meurt.
C'est-à-dire mourir, pour nous, c'est une image un peu compliquée.
La terre meurt, c'est-à-dire qu'elle perd sa vie, elle perd ce qui la constitue, elle se démolit. Et donc, on est obligé de la droguer avec des engrais de façon à essayer de conserver un rendement.
La terre devient stérile ?
La terre devient stérile, oui, tout à fait. Le système agricole a utilisé pendant longtemps du matériel inadapté. La charrue est un outil de destruction massive des sols qui crée des zones de compaction. Donc les racines ne peuvent pas rentrer dans ces zones de compaction. Donc pendant que ces racines essaient de perforer de la terre compactée, la plante ne pousse pas.
S'il n'y a plus de racines, donc l'eau ne peut plus circuler non plus.
On crée des inondations, on crée des sécheresses. Quand vous labourez ou que vous grattez un sol, vous le faites sécher. Donc après, vous êtes un peu obligé d'attendre la pluie. Tandis que si on part sur un système de respect de la structure du sol, c'est-à-dire on laisse la terre de surface dessus et la terre de profondeur dessous, à ce moment-là, on a beaucoup, beaucoup moins de problèmes. Le résultat d'analyse de Claude Bourguignon a été un peu conforme à ce que je m'attendais et donc je me suis engagé dans le semi-direct sous couvert comme il me l'a préconisé, c'est-à-dire on arrête de travailler totalement les sols, on fait des successions de cultures et d'intercultures.
Alors attendez, je vous arrête, on arrête de travailler les sols, c'est-à-dire ?
On ne gratte plus les sols, on va...
Donc plus de charrues ?
Plus de charrues, je l'ai même vendu. Et donc on travaille de façon très biologique avec des systèmes racinaires de culture et d'interculture. C'est-à-dire que le meilleur outil de travail de sol, ça devient les racines des plantes. Donc je me suis informé par la lecture de livres, je me suis informé par des vidéos, je me suis informé par beaucoup de recherches sur Internet. Et ensuite, j'ai commencé à faire des essais chez moi aussi avec des plantes non stériles, c'est-à-dire non hybridées, de façon à pouvoir les ressemer et être totalement indépendant d'un type de plante qu'on veut bien nous vendre, sachant que c'est un type de plante qui est fait pour recevoir des engrais et des traitements. L'hybridation consiste à la stérilisation du vivant. Ni plus ni moins dans un but commercial. C'est-à-dire que la fonction d'une plante, c'est de pouvoir se reproduire au fil du temps et que donc en faisant des manipulations et des sélections génétiques, on arrive à rendre des plantes qui sont jolies mais qui sont stériles. Nous recevons nos blés depuis plus de 7 ans. Donc nous avons des blés qui commencent à s'adapter un peu à notre terroir. Donc le terroir, c'est le climat et le sol réunis. Donc nous avons des espèces de plantes qui commencent à s'adapter. Je n'achète quasiment plus de semences hybridées, encore moins des semences OGM.
Mais est-ce que c'est autorisé ça ?
La semence OGM est interdite en bio et la semence hybridée peut être autorisée sous certaines conditions.
Mais vous avez le droit de reproduire vos propres graines.
On a le droit, effectivement, de reproduire nos propres graines.
Je voudrais revenir à ce moment où vous avez décidé de passer en agriculture biologique. Comment ça a été accueilli dans votre entourage? Est-ce que vous en avez parlé avec d'autres agriculteurs qui travaillent sur la même zone que vous?
Alors, en avoir parlé, j'en ai eu parlé avec mon père, qui lui, donc, a fonctionné pendant plus de 30 ans, ou même 40 ans, un système traditionnel, qui a vu l'arrivée de l'azote, qui a vu l'arrivée de la chaux par le train. Donc, ça a été une discussion qu'il a fallu prendre avec doigté à travers le temps. Puisque il est très difficile de changer les habitudes et encore plus d'en inculquer de nouvelles.
Mais vous-même, si je vous avais parlé du bio il y a 20 ans, au moment de votre installation, est-ce que vous auriez été ouvert vous-même à écouter ce genre de choses ?
J'ai toujours été ouvert. J'aurais pu démarrer la transition plus tôt, mais on a besoin de faire des vérifications et lorsqu'on travaille avec du vivant, ça prend du temps.
Le bio a un problème d'image au niveau des paysans ?
Le bio a un problème de mythe, j'ai envie de dire. On ne s'attache pas au fond du problème, on s'attache à l'image. Et c'est vrai que lorsque vous regardez des cultures bio et de l'autre côté du fil barbelé ou de la haie, que vous voyez des cultures traditionnelles shootées aux engrais, c'est sûr que ça fait beaucoup plus envie de voir la culture traditionnelle qui est grande et verte.
D'accord, mais moi, en venant chez vous, là, j'ai regardé vos prairies. Elles sont quand même d'une couleur très différente des champs alentours, hein. Je précise qu'autour de chez vous, les agriculteurs exercent tous en agriculture traditionnelle. Donc ici, vous êtes le seul à exercer en agriculture biologique. Vos champs sont quand même vert clair autour, les champs sont vert foncé, presque noir. Il y a quand même un très très gros contraste à l'œil. Le bio, c'est rentable.
Le bio est plus rentable, il est même, j'ai envie de dire, nettement supérieur au système traditionnel. Il ne faut pas s'arrêter à l'image de la production, il faut regarder tout ce que l'on évite d'acheter. Et tout le gasoil que l'on consomme en moins et toute l'énergie que l'on dépense en moins.
Par exemple, qu'est-ce que vous consommiez et qu'est-ce que vous ne consommez plus ?
Nous consommions quasiment le double de gasoil. Nous consommions 10 tonnes d'azote. Nous consommions...
Par période, 10 tonnes par an, par mois ?
10 tonnes par an, voilà. On consommait beaucoup plus d'énergie. Et comme l'énergie, c'est de l'argent, les marges se retrouvent supérieures en agriculture biologique par rapport au système traditionnel.
Tout ce qui était apporté par des vecteurs chimiques, ça se compense par des moyens naturels, donc qui sont gratuits par définition.
Oui, tout à fait. Vous avez plus de marge à l'hectare. Ça se voit au niveau comptable. Les EBE au niveau des exploitations laitières en 2012 étaient à 132 euros par UGB. En système biologique, les dernières années, on était au-delà des 200 euros à l'UGB.
C'est quoi l'UGB ?
L'unité gros bétail, donc c'est-à-dire c'est en gros la marge que vous faites par animal.
Par quelle étape il a fallu passer avant de rééquilibrer votre activité ?
La transition dont vous parlez s'appelle la conversion. Elle dure 2 ans, mais en réalité, elle dure beaucoup plus. Donc, comme nous travaillons avec du vivant, il faut qu'il y ait une adaptation. C'est comme enlever un toxicomane de ses habitudes. Le sol, c'est pareil. Il était habitué à recevoir une nourriture spéciale. Donc il doit se déshabituer et redevenir autonome et nous devons par nos pratiques aider cette autonomie. Donc ça prend du temps, 5 ans, 6 ans facilement pour qu'un sol commence à redevenir vraiment vivant. Donc au niveau des sols, c'est difficile à voir, le sol est sous nos pieds, donc il faut faire des trous. Au niveau des plantes, comme on a arrêté les engrais, on a vu beaucoup plus d'insectes présents sur les plantes, on a vu beaucoup moins de pucerons. Puisqu'on avait beaucoup plus de coccinelles.
Et c'est un problème, les coccinelles ?
Les coccinelles ne sont pas un problème, elles régulent un équilibre. La nature est un vaste équilibre où certains mangent d'autres de façon à préserver cet équilibre.
Pourquoi on continue à considérer qu'il faut tuer les insectes sur les céréales ou les productions ? Quel est le problème agricole ?
Le problème, c'est que le prédateur qui consomme les pucerons est gratuit. et que on préfère vous vendre des produits plutôt que de bénéficier de cette gratuité qu'on ne connaît pas. 90% des insectes présents sur ou sous le sol sont méconnus. S'il y a un excès de pucerons ou s'il y a un excès de doryphores dans les sols, c'est qu'il manque le prédateur.
Est-ce que vous avez senti une perte qualitative pendant une période au niveau de vos terres ?
Qualitative non, quantitative oui. Et ça remonte très doucement au niveau quantitatif. Au niveau qualitatif, ça s'est connu rapidement. On a eu des animaux qui se sont mis à aimer de plus en plus ce qu'ils consommaient. Au niveau quantitatif, c'est très long, puisqu'un sol a été meurtri pendant des décennies et que panser les plaies, ça prend du temps.
Et au niveau financier, vous avez eu des craintes ?
Évidemment, lorsqu'on se lance un peu dans l'inconnu, on a toujours peur au niveau financier. On a quand même quelques aides au niveau de la PAC, on est soutenu. Maintenant, évidemment, oui, on a des craintes. C'est pas évident d'engager une conversion, c'est très difficile pendant 2-3 ans, puisque vous êtes payé encore en système conventionnel, et alors que vous avez déjà une chute de la production.
D'accord, donc c'est le moment où il faut être fort, en fait, parce que ça doit être un petit peu décourageant comme période.
C'est une période délicate, oui, c'est vrai.
Parce que là, on a beaucoup parlé des aliments, mais si on parlait un petit peu des animaux, donc qu'est-ce qui a changé pour les animaux ?
Les animaux ont meilleur appétit, les animaux se portent mieux qu'avant, avec beaucoup moins de traitements vétérinaires.
Ils étaient traités pour quoi, les animaux, avant ?
Les animaux, on achetait des compléments de minéraux, on achetait des oligos, on achetait beaucoup de médicaments pharmaceutiques de façon à compléter le déséquilibre que l'on crée dans le sol.
Et est-ce que pendant une période, le fait de ne pas les traiter, ça les a affaiblis ?
Alors oui, on a eu pas mal de pertes durant la conversion. Parce que c'est comme le sol, vu que les animaux étaient habitués à recevoir des traitements, il y a eu une fragilité qui a été vérifiée et le métabolisme des animaux peu à peu est redevenu beaucoup plus naturel et beaucoup plus fort. Oui, on a perdu des têtes, on a eu...
Beaucoup ?
Oui, plusieurs. On a eu des avortements, oui, on a perdu 5 ou 6 adultes facilement dans l'année, oui. Dans la période de conversion, oui.
Vous avez combien de vaches au total ?
En tout, on a 70 vaches, les petites plus les grandes.
Pour vous, c'est une grosse perte au niveau proportionnel ?
Ben, toute perte est préjudiciable, donc oui. Quand vous êtes dans une période de conversion, si vous devez subir des pertes, c'est encore plus dur, évidemment.
Et au niveau des contrôles, puisque bon, le contrôle bio, il est quand même assez difficile, hein, enfin, il est très réglementé en France.
Nous avons un contrôle officiel et un contrôle inopiné. Donc vous avez un technicien qui vérifie une fois le troupeau, une fois les sols, les plantes. Il vérifie qu'on n'utilise pas de désherbage, il vérifie qu'on n'achète pas de produits interdits en agriculture biologique. Évidemment, des produits chimiques sont interdits. Et il vérifie aussi l'alimentation des animaux. Au niveau biologique, on n'a pas plus de critères que le système traditionnel.
Vous avez remplacé les traitements conventionnels par des traitements que j'appellerais alternatifs.
Les vitamines naturelles sont autorisées, les vitamines synthèse sont interdites. Ensuite, on a utilisé l'homéopathie quand c'est nécessaire, au niveau des animaux.
Ah, vous faites de l'homéopathie avec les vaches ?
Évidemment, c'est possible.
Soigner la terre, étape d'une transition agricole. Une émission proposée par Clémentine Saint-Toul-Colombres, d'après les interviews de Paul et Lionel Serieis, exploitants agricoles installés à Romette, Aveyron. Deuxième partie, le père. Paul Serieis,
ouais.
Vous étiez exploitant.
Oui.
Vous êtes à la retraite aujourd'hui.
Oui, je travaillais avec mon épouse. C'était différent d'actuellement. C'était beaucoup plus petit qu'actuellement.
Vous aviez moins de terres que votre fils, par exemple ?
Oui, il y avait moins de terres. Il fallait pouvoir faire avec. Et bon, à l'époque, c'était pas simple non plus. Mais à l'époque, on pouvait dire que c'était rentable par rapport actuellement. Parce qu'actuellement, il faut toujours faire plus et les cours ne suivent pas suivant ce qu'on achète. Actuellement, c'est plus difficile qu'à l'époque.
Pourquoi on a l'impression que les paysans ont dû s'endetter de plus en plus ?
Il y a la différence entre ce qu'on vend et ce qu'on achète. Les cours sont trop bas et le lait ne suit pas. Il est tout le temps trop bas par rapport au consommateur. Le consommateur, lui, il paye plein pot et nous, on se trouve avec des difficultés au niveau des prix. Ce n'est pas l'agriculteur qui gagne les sous, c'est l'intermédiaire.
Aujourd'hui, en agriculture traditionnelle, les agriculteurs achètent des graines hybridées. Déjà, quand vous avez commencé à exploiter, c'était comme ça ?
On achetait parce que l'exploitation n'était pas assez grande pour pouvoir avoir tout le nécessaire pour nourrir le bétail. Et alors, on achetait aux coopératives. Et à l'époque, les prix, par rapport à aujourd'hui, ils étaient moins chers. Aujourd'hui, les transports plus chers, et voilà, c'est ce qui porte coup sur les exploitants.
Et quand votre fils a décidé de passer au bio, ça voulait dire quoi pour vous ?
Alors, voilà. Je n'ai pas contesté, il a fait comme il a voulu, mais j'ai compris que, vu tout ce qui se passait, les prix tout le temps augmentaient. Il a réfléchi, il avait un peu raison. Bon, il a commencé par se brûler les orteils avec l'eau chaude. Il a quelque chose qui ne va pas. Moi, je n'ai jamais eu de problème. Bon, moi, je n'ai jamais été une personne à tout le temps à mettre de l'engrais par les terres. Et il a fait venir un agro qui nous a mis bien en route. Et c'est là que vraiment j'ai appris quelque chose.
Qu'est-ce que vous avez découvert, vous, à ce moment-là ?
Ah, ben, ce qui m'a marqué le plus, c'est le sondage qu'on a fait sur le terrain. J'ai bien compris qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour pousser une plante en dessous la semelle de labour. Moi, j'ai tout le temps labouré. Finalement, c'est quelque chose qui est contraire à la nature parce que la semelle, c'est un écoulement des eaux pluviales et tout ça, ça s'en va dans les ruisseaux et on se trouve avec une pollution des rivières et tout. Et c'est quelque chose qu'actuellement, ça sera difficile à mettre en route.
Et pourquoi, d'après vous ?
Ils n'y croient pas, ils disent qu'on ne peut pas avoir récolte sans labour, alors que c'est faux. Parce que moi, depuis 5 ans, je suis sans labour dans le jardin et ça marche très bien.
Vous en discutez un petit peu avec des agriculteurs autour de vous
et... Oui, on discute, oui. On ne peut pas en parler beaucoup parce qu'ils ne répondent pas seulement. Ils disent le bio. Mais ils le constatent déjà. Ils constatent qu'au niveau des fourrages, c'est nettement meilleur. Actuellement, il pleut. Vous avez tous les rieras qui se cassent la gueule. Et quant à nous, ils sont bien droits. La plante est quand même beaucoup plus résistante que ceux qui mettent la chimie. Hein. Ils le verront par la suite. Hein. Et ils constatent déjà autant de résultats qu'eux. Hein. Et c'est notamment meilleur en qualité. Ils vous écoutent bien, mais ils ne sont pas tous croyants à ce point-là.
Ils ont peur de ne pas réussir à gagner leur vie.
Ils ont peur d'avoir moins, ça c'est sûr, d'avoir moins. Les premières années, on ne peut pas avoir le résultat qu'on a avec la chimie. Quand on est habitué à mettre de l'engrais, alors ça surprend un petit peu quand on passe au bio. Bon, dans les premières années, c'est assez difficile. La terre, c'est sûr, est empoisonnée par les pesticides. Et c'est certain que du jour où elle va revenir vivante, vraiment, et ça va être autre rendement que c'est actuellement. Qu'on constate déjà depuis quelques années, l'amélioration se poursuit. On sait très bien que les rendements ne sont pas les mêmes, mais on se retrouve dans le prix.
Parce que vous achetez moins de choses.
On achète beaucoup moins, oui. Ce qu'on a mangé jusqu'à... Le camelnan, plus ou moins, ça a été des produits traités par la chimie.
Et actuellement, on parle beaucoup de la guerre des graines. Monsanto, qui dépose des brevets sur les graines du monde entier, vous en pensez quoi ?
Oui, là, Là, c'est un autre problème. Hein. Ils ont gardé la bonne graine ou les bons arbres où il y avait de bons fruits qui n'avaient pas besoin de traiter. Ils ont tout gardé chez eux, ils les ont chez eux, mais ils nous vendent des arbres qui demandent qu'à être traités. Traités à l'écorce, traités à la fleur, traités par la suite jusqu'à 5-6 traitements avant d'avoir la pomme. C'est complètement dégoûtant de voir ça. Faut le dire au mot, bon, c'est pas trop agréable, mais c'est affreux. C'est affreux de manger des pommes traitées comme elles sont actuellement. Il vaut mieux boire un verre d'eau plutôt que de manger des pommes. Il faut que l'agriculture change. Qu'est-ce qu'ils sont allés mettre la chimie dans l'agriculture? Ça, c'est la pure bêtise. Alors que nos ancêtres, nos grands-parents n'en avaient pas tout ça. Ils avaient la santé meilleure que celle d'aujourd'hui. Ça va pas. Il y a assez de maladies, hein. Comme maladie, cancer, et dans tout le patelin, dans toutes les maisons presque. Alors, il y a bien des choses qui ne vont pas. Il faut que l'agriculture change. Tout en dépend des arbres. Ici, dans nos régions agricoles, on empoisonne tout. On a les arbres qui ont de la peine à vivre. Où ça va aller tout ça? Il faut quand même réfléchir et changer un peu les méthodes. Les agriculteurs, ils regardent. Ils attendent de voir. Ils sont tellement abrutis, il faut dire le mot, à mettre de l'engrais. Il leur semble qu'ils ne peuvent pas faire sans ça. Moi, j'ai fait pareil. Avant que j'ai la retraite, j'ai empoisonné les terres. Je peux le dire maintenant. On nous avait appris l'envers de ce qu'il fallait.
Mais l'utilisation des engrais, ça a commencé après la guerre, non?
Moi, j'ai commencé à en épandre chez moi quand j'étais jeune, à partir de 18 ans. Et le sac sur le dos et allez. On ne savait pas ce que c'était. On s'est aperçu pour dire que ça venait plus joli. J'ai fait ça toute ma vie, moi, jusqu'à la retraite. Mon fils, lui, il a vu autrement et je constate qu'il a raison. Ils finiront bien par réduire la chimie dans les terres. Il y en a déjà qui commencent. Ils disent rien, mais ils commencent. Ils n'emploient pas les engrais qu'ils employaient il y a 2 ans. Ne diront pas, alors si c'est bête, mais c'est comme ça. Il vaut mieux en discuter, mais ils regardent, ils copient.
Comment vous voyez l'avenir agricole dans cette région déjà? Vous pensez que ça va se développer comment ou qu'est-ce qui serait souhaitable?
Je constate que c'est très difficile actuellement parce qu'il y en a beaucoup, il y en a la peine à joindre les deux bouts. Et alors, je ne sais pas s'il n'y a pas un changement, c'est toujours trop élevé au niveau des achats par rapport à ce qu'on vend. Alors, ça ne peut pas aller guère plus loin, sinon, je ne sais pas, où ils se casseront la figure. Hein. Et ça va être la vraie faillite. Hein. Ils en ont à peine à joindre les deux bouts. Quant à nous, en bio, c'est tout à fait différent. Moins de travail, jusqu'à 40% de travail en moins. Moins de gasoil et moins d'achat, puis ce qu'on fait, au moins c'est bon, que ce soit pour les animaux et que ce soit pour nous. Parce que la santé, avec leurs pesticides là-bas, Monsanto là-bas et tout ce qui s'ensuit, ils escantent la santé de tout le monde entier. Alors si le bio peut arriver à progresser, ça sera une bonne chose. Et voilà.
C'était Soigner la Terre, étape d'une transition agricole, une émission proposée par Clémentine Saint-Toul-Colombres, d'après les interviews de Paul et Lionel Sarriès, exploitants agricoles installés à Romette, Aveyron.